Donc, pour expliquer un peu la genèse de notre participation aujourd'hui, donc, lorsque le colloque a été prévu, on a réuni les camarades du syndicat qui souhaitaient y participer. On a monté un groupe et donc pour travailler à la fois sur le texte, hein, donc qui est publié dans les actes, et puis pour voir aussi de quelle manière on pouvait le retransmettre. Bon. Ce qui nous semblait important d'abord, c'est de dire que d'une part, on n'est pas scientifique, on n'est pas des chercheurs, donc le texte qu'on a produit, il n'est pas la source, il n'est pas le résultat d'un travail de recherche comme peuvent le faire les historiens. Et donc, ce qui nous semblait important, c'est le point de vue, c'est-à-dire de dire que c'est en tant que militant syndicaliste du bâtiment qu'on a réfléchi à ce qu'avaient fait les communards lors de la Commune de Paris et plus spécialement sur la question de réquisition des ateliers abandonnés. Alors pourquoi on a réagi aussi assez rapidement, c'est que nous, tous les ans, à la date du 16 avril ou le samedi qui correspond à la date du 16 avril, c'est à ce moment-là qu'on fait, nous, la commémoration de la Commune au Père Lachaise. Voilà, considérant que c'est ni à la déclaration de la Commune, ni à la semaine sanglante qui nous semblait intéressant, malgré bon, bah, tout ce qu'on peut en savoir, qui nous semblait important de commémorer, mais c'était plutôt les actes et la volonté des communards en direction des travailleurs. Voilà. Donc quand on a fait cette... quand on a eu cette réflexion, on s'est dit, on a tendance à toujours tirer des bilans. On tire des bilans de la Commune de Paris, on tire des bilans de la Révolution espagnole, on tire des bilans de la Révolution russe, on tire des bilans. Voilà. Quand on tire les bilans, on oublie un peu les hommes et les femmes qui ont participé à ces événements. Et puis quand on tire des bilans toujours très critiques, si ce n'est négatifs, en disant mais on ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas fait ça, et pourquoi ils n'ont pas fait ça, et pourquoi ils sont arrivés à ça, etc. Et c'est le même phénomène qu'on retrouve sur la Commune de Paris, où on dit mais quand on regarde le programme de la Première Internationale et des militants qui formaient la Commission du Travail et de l'Industrie, en fin de compte, ils ont fait beaucoup moins que le programme qu'ils annonçaient et sur lequel ils travaillaient précédemment. Donc, quand je dis que c'est en tant que militant qu'on s'est posé la question, on s'est dit, on commémore la Commune, c'est le 150e anniversaire, et quel lien il y a entre ces militants d'alors et les militants que nous sommes aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont très différents de ce qu'on était, de ce qu'on est aujourd'hui, et ce qu'ils ont fait, est-ce qu'on serait en capacité de le faire, nous, aujourd'hui? Voilà. Parce que la question qu'on se pose dans notre militantisme, toujours, c'est pas de regarder l'histoire, c'est de regarder le présent avec un regard sur l'histoire. Voilà. Donc, sur cette question, et comme on n'avait pas les moyens de faire une intervention qui soit scientifique, on a décidé de le faire d'abord sous une forme plus interactive. Donc, on va vous distribuer un certain nombre de cartes. Et donc, le principe, c'est que ces cartes représentent des militants. Alors, elles représentent des militants de 1871 ou elles représentent des militants de 2021. Et donc, on va vous demander, sur toutes ces cartes, vous avez des numéros. Et donc, une main innocente, c'est-à-dire la mienne, va tirer des numéros au hasard. Et on va vous demander d'interpréter ce qu'il y a sur l'affiche, c'est-à-dire d'être le militant ou la militante qui est sur cette fiche. Et ensuite, après nous avoir lu son portrait, de nous dire si, à votre avis, c'est un militant de 1871 ou c'est un militant de 2021. Un militant ou une militante, bien évidemment. Thank you. Pardon. Donc, si tout le monde a une fiche, je vais commencer à tirer un premier numéro. Donc le principe, je ne sais pas où est le deuxième micro. Donc on va faire circuler le micro pour les personnes. Donc est-ce que quelqu'un a le numéro 28 ?
Vas-y, donc le 28.
Donc sur le principe, tu nous lis ce portrait. Et ensuite, tu nous dis si dans quelle période tu le mettrais.
Alors, le nom, c'est Didier, l'âge 45 ans, le métier chauffeur-livreur, mandat militant, trait de caractère. Didier, travailleur solitaire, approvisionne les chantiers de Paris en matériaux de construction de toutes sortes. Il en profite pour diffuser les tracts et journaux syndicaux et rappeler aux ouvriers du chantier leurs devoirs syndicaux. Bon, je pense que ça date pas d'aujourd'hui.
Est-ce que donc il y a des avis contraires ou est-ce que tout le monde est d'accord sur cette interprétation de ce portrait ?
Ben, je ne sais pas, il faut avoir, mais il ne faut pas cesser de parler, nous sommes à la radio. Tiens.
Moi je pense que c'est quelqu'un, d'après l'intitulé de son métier, chauffeur-livreur. Je pense que je ne sais pas comment ça pouvait s'appeler en 1871. Je ne sais pas comment on pouvait les appeler à l'époque, mais je pense que c'est plutôt quelqu'un de 2021.
Non. Donc, on a un avis sur 1871, un avis sur 1921. Pour départager tout le monde, Didier était un adhérent du syndicat du bâtiment, chauffeur-livreur de matériaux de construction. Donc, il sera sur 2021. Donc, numéro 25.
Alors, c'est Victorine, 28 ans, couturière, coopératrice. Elle son trait de caractère, alors l'entrée en militantisme suite aux injustices du quotidien. Victorine fonde une boulangerie coopérative avec son mari. Impétueuse et révoltée, elle porte assistance aux travailleurs, travailleuses en difficulté et son appui au combat collectif.
Donc ton avis ?
Bon, mon avis, effectivement, c'est que c'est 1871.
D'accord.
Voilà.
Est-ce que tout le monde est d'accord ? Donc Victorine Brochet.
1871.
J'aurais pas dû plier les... Ça aurait été plus simple. 29. 29. Donc le... Je t'en prie.
Oui, Yves, âgé de 58 ans, est un ébéniste, propagandiste. Il est aussi à l'aise avec le bois que dans le contact humain. Il façonne ses discours comme des meubles d'artisan. Son exigence et son expérience en font un ouvrier écouté. J'avoue qu'il pourrait appartenir aux deux périodes.
D'accord. Mais donc
mon sentiment, c'est que c'est plutôt un homme du passé, mais je crois que c'est un trait de caractère qui pourrait très bien être actuel, je l'espère.
Alors, dans le... Oui, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Yves était un militant du syndicat du bâtiment qui faisait un vieux métier, mais qui existe toujours, hein, qui s'appelle ébénisterie. Alors, numéro 6. Donc, c'est la complexité de... Enfin, c'est ce qu'on essaye de montrer à travers ce jeu...
Car Alexandre, 49 ans, métier secrétaire de la commission du logement, mandat juridique, trait de caractère, si Alexandre arpente quotidiennement les couloirs des services du logement, c'est pour trouver des ressources et outils de travail aux travailleurs en ont le besoin. Ses connaissances des rouages de l'administration et des procédures facilitent l'accès au logement pour le nombre de camarades.
Quel est votre sentiment? Vous le mettriez en 2021?
Comment?
Où est-ce que vous le mettriez? Dans quelle période?
Je ne sais pas.
Alors, pour vous aider un peu, est-ce qu'il y a un autre avis dans l'assistance? Oui. Alors, c'est Alexandre, un camarade du syndicat qui travaille au ministère du Logement et de l'Écologie. Et donc, qui est de 2021, pardon. 17.
Alors, c'est Benoît, 30 ans, journaliste, mandat coopérateur. Benoît maîtrise les mots et les slogans. Il rédige des articles sur les grèves des usines sidérurgiques et s'investit dans la création d'une coopérative. Son passage en prison renforce sa lutte contre les injustices et pour une société socialiste qu'il appelle de ses voeux. Moi, je dirais 1871.
Oui, quelqu'un a une idée de qui on parle là ? Alors le terme de journaliste est un peu particulier parce qu'il a fait plusieurs métiers, il a fini par être journaliste, mais il était d'abord ouvrier, et donc c'est Benoît Malon.
Voilà, Benoît Malon dont on parlait hier, là, qui a écrit La Troisième Révolution, texte tout à fait essentiel sur les prises d'armes ou pas les prises d'armes. Quoi.
Numéro 16. Troisième
défaite, pardon, oui.
16.
Corps.
Donc là, c'est Lucie, 32 ans, administratrice d'un théâtre populaire. Son mandat est d'être chorale propagandiste. Lucie met au service des luttes sa prose et son sens du joli mot. Elle est une propagandiste expérimentée et charismatique. Sa voix et ses chansons animent les luttes et réchauffent les cœurs sur un piquet de grève comme en manifestation. Moi, je dirais 2021.
Oui, alors,
il y a d'autres opinions.
Donc 1871 pour Marie, là, en l'occurrence.
Alors, pour répondre à la question, donc Lucie est notre chef de chœur. C'est elle qui fait chanter la chorale du bâtiment et donc qui nous accompagne généralement sur les manifestations où on chante. Voilà. Le 9.
Merci. François, 48 ans, tourneur, mandat trésorier, trait de caractère. François est un taiseux et pourtant il est de toutes les réunions, toutes les discussions. Militant anarchiste, passionné par le cadre des structures militantes, il s'investit pour un anarchisme de la discipline volontaire dans laquelle le cadre ouvert d'être sans cesse discuté, négocié, modifié devient le cadre dans lequel peut s'épanouir la liberté.
Beau portrait.
Oui, donc
je dirais plutôt 2021.
Alors?
Donc 1871.
Et ben voilà.
Donc il est clair que le terme d'anarchiste est un peu trompeur.
Oui, absolument.
En 1871. Ouais. Mais en tout cas, c'est le portrait de ce militant. 14.
14.
Alors Vladimir, 28 ans, bûcheron et lagueur, mandat coopérateur. Vladimir est de toutes les luttes, camarade dévoué, ayant le sens des responsabilités. Il consacre le moindre temps libre à son engagement militant. Mêlant militantisme et sens de la fête, il sait trouver les mots pour encourager ses camarades. Il participe activement au développement d'une coopérative alimentaire. Alors moi je penserais plutôt 2021... pour la coopérative alimentaire, d'une part, et puis bon, le métier bûcheron et lagueur, bon, je ne sais pas si lagueur, ça se disait aussi, enfin bon, bref, voilà, je pensais plutôt à 2021.
Donc 2021, Vladimir est le camarade du syndicat qui est particulièrement investi sur la coopérative, l'épicerie solidaire du syndicat qui s'appelle La Substantielle. 10.
C'est marrant ces séries quand même, hein. C'est comme au loto, hein.
Gwendal, 35 ans, métier tailleur de pierre, mandat trésorier et traits de caractère, mêlant expérience professionnelle et fermeté. Il est un travailleur reconnu et respecté sur les chantiers de taille de pierre. Son intransigeance et son intolérance aux injustices en font un camarade combatif au verbe haut.
Alors ?
Oh bah si, je vais me tromper, sinon c'est pas drôle. Je peux être des deux côtés de la barrière, en fait, ce garçon. Allez, on va le mettre en 1871 et il sera en 2021.
Voilà, il est en 2021, c'est un camarade trésorier du syndicat.
Un autre numéro ?
23.
Léodile, 47 ans, journaliste écrivaine, le mandat formation, trait de caractère. Léodile parvient à allier ses convictions avec son métier de journaliste. Elle écrit dans des journaux révolutionnaires et n'hésite pas à s'engager pour l'égalité de genre. Son roman, Un mariage scandaleux, constitue une critique du caractère inégalitaire du mariage. Elle participe également à la formation des plus jeunes. Je la mets en 1871.
Trop facile pour toi, ça.
Bon, quelqu'un peut nous dire comment cette personne s'appelait ?
André Léo.
Alors, il faut préciser que ces fiches sont réalisées en 2021 et qu'aujourd'hui, on s'adresse à un public de 2021 et qu'il est important de situer les choses. Après, je veux dire qu'il est évident aussi que comme c'est un esprit de jeu, on a mis quelques trappes pour que vous puissiez vous tromper allègrement. Numéro 4. Donc le constat qu'on peut faire pour l'instant, c'est que c'est pas toujours simple de classer un militant dans une case ou dans une autre.
Alfonso, 56 ans, ouvrier, militant. Trait de caractère. Alfonso est un militant passionné qui trouve son équilibre entre la flânerie dans des paysages de campagne et la propagande syndicale. Débrouillard, il est toujours disponible pour prêter main forte. Sa profonde humanité en fait un excellent pédagogue pour les jeunes militants et militantes.
Alors
là, Alfonso, je... Ouvrier. Je ne sais pas.
Bon, donc c'est un camarade du syndicat aussi qui est donc de 2021. On a essayé à travers l'ensemble de ces portraits de montrer aussi que les gens ne se résument pas dans leur histoire, enfin dans l'histoire que l'on écrit après, à certaines figures fortes, mais aussi à des tempéraments et à des choses qui font que dans le groupe militant dans lequel ils sont, je veux dire, ils ont un apport qui est irremplaçable. 24.
Ici, le 24.
Alors, nom Karimou, âge 28 ans, métier échafaudeur, mandat trésorier. Karimou est un travailleur organisé qui, dans son métier comme dans son mandat de trésorier, édifie minutieusement calculs et plateformes sans omettre une pièce ou un chiffre.
Donc ?
2021.
Donc 2021, il est clair que l'immigration, à l'époque de 1871, n'était pas tout à fait la même, ce qui peut se ressentir dans les prénoms de camarades maliens qui sont nombreux au syndicat du bâtiment.
Et puis les échafaudeurs, en 1871, ne devaient pas s'appeler échafaudeurs.
Voilà, en 1871, on démolissait, on reconstruisait Haussmann plus qu'on mettait des échafaudages. Numéro 1.
Ah bah c'est moi pour le coup. Donc c'est Jean-Louis qui a 31 ans et qui est menuisier et qui a un mandat de secrétaire. Son trait de caractère, tout en travaillant sur ses pièces de bois, Jean-Louis garde un regard large sur le fonctionnement de son métier. Convaincu de la nécessité d'une organisation syndicale et de travail en fédération de corps de métier, afin que les travailleurs s'organisent du bûcheron au sieur au menuisier sur toute la chaîne, afin de mettre en place un respect de l'humain et de l'environnement. Alors, je vais me mouiller. Comme on parle de syndicat de métier, peut-être que c'est un camarade de 1871, mais peut-être est-il de 2021.
Donc, 2021, c'est un... De 1871, pardon.
Ah, je savais bien quand même. Hein.
Donc,
voilà.
Jean-Louis Pindy, qui est bien sûr connu pour autre chose que son métier, pour sa présence dans la commune de Paris, et puis ensuite pour son parcours. Voilà. Numéro 18.
Julien, 34 ans, paveur bitumeur, propagandiste, trait de caractère. Julien connaît bien les conditions de vie de la classe ouvrière, car son boulot l'amène à rencontrer tous les autres corps de métier de toute expérience et qualification. Son sens de l'humain en fait un formidable agitateur. Les débraillages et les rencontres musclées avec le patronat en font un militant redouté.
Alors, quelle année ? Alors, réfléchis dans le micro.
Il faut réfléchir dans le micro. Moi, j'aurais tendance à dire 2021. Je peux me tromper.
Oui. Un tumeur.
Donc, 2021, oui. Numéro 3.
Qui a le numéro 3 ? Bah, c'est encore un.
Nathalie, 45 ans. Relieuse, déléguée syndicale. Exaltée et intransigeante. Elle participe aux grèves parisiennes qui lui valent une certaine reconnaissance. Fermement engagée sur l'égalité de genre, elle participe à la création d'une coopérative alimentaire aux côtés d'Eugène.
C'est un peu trop facile pour toi aussi, ça. Il y a de la triche dans ce jeu.
Je peux dire une mauvaise réponse comme ça, du coup. Délégué syndical, moi, je dirais 2021, mais... Non, c'est ouais, 1871.
C'est un pièce de langage encore.
Ouais.
Voilà. Nathalie Lemel, donc, qui avec c'est... Eugène Varlin.
Voilà, c'est
la
ça.
Marmite.
C'est Nathalie Lemel, voilà, avec Eugène Varlin.
Numéro 20.
Le 20.
Alice, 28 ans, responsable service public quartier, mandat coopératrice, trait de caractère. Alice développe une coopérative alimentaire pour venir en aide aux travailleurs précaires du bâtiment. Organisée et disponible, elle organise la collecte des denrées alimentaires et autres produits de première nécessité. Militante infatigable, elle développe des outils et analyses en faveur des droits des travailleurs et des droits des femmes. 2021 ?
Donc 2021, oui, c'est... On a aussi des femmes au syndicat du bâtiment. Numéro 15.
Eugène, 32 ans, avocat, justice, trait de caractère, porté par un désir d'émancipation, Eugène mène des études de droit afin de comprendre les mécanismes de la justice et loin d'utiliser ses connaissances à son profit personnel, il les utilise pour une plus grande justice sociale. Dès le début de ses études, il s'implique dans des structures militantes révolutionnaires pour la défense des droits des étudiants, ce qui fut le point de départ d'une activité qu'il mène depuis sans relâche. Alors moi, j'avais pensé, avant d'arriver à droits des étudiants, à quelqu'un qui était en 2021, mais je ne sais plus. Donc je vais dire...
1950.
Voilà, je ne sais plus. Là, c'est les droits des étudiants qui m'a un petit peu dérangé. Allez, 1871.
Donc 1871, Eugène Proto. 13.
Alors, Albert, 32 ans, ouvrier ciseleur, mandat commission du travail. Trait de caractère, Albert est le camarade que chacun veut avoir à ses côtés, calme et doté d'une profonde empathie. Il milite et s'agite sans cesse pour l'organisation des ouvriers de l'artisanat, sans jamais perdre la tête et s'emporter. Il est celui sur qui on peut compter lorsqu'on a besoin de conseils et soutien dans nos petites du quotidien, dans nos métiers. Moi, je dirais 1871.
Oui, 1871.
C'est qui Ciseleur, alors ?
Donc, c'est Albert Thèse. Numéro 5. Alors pour les personnes qui souhaiteraient avoir des précisions sur les portraits des personnes qu'on évoque de 1871, on a des fiches, hein, on a ressorti les fiches Métron pour ceux qui voudraient les consulter après notre intervention. 5.
Donc le 5 se prépare.
Georges a 34 ans, il est architecte et propagandiste. Il réalise textes et visuels pour la défense des droits des travailleurs. Son caractère froid et introverti tranche avec sa plume exaltée. Ses paroles sont rares et écoutées. Jugé par les forces répressives, il paie de sa chair la défense de ses convictions. Je crains que dans Visuel, il y ait un piège et je choisirai 71.
Donc 1871, donc Georges Bertin, qui a participé à la marmite, qui était le responsable de la commission, pour qui on n'a pas de date de naissance et pour qui on n'a pas de photo, enfin de représentation, en tout cas. 27. Donc on arrive presque au bout, hein. C'est cette estrade qui nous tue, en fait.
Alors, c'est Elisabeth qui a 20 ans, institutrice, militante, immigrée révolutionnaire féministe. Elisabeth s'engage dans le feu de l'action, dans les combats du moment. Elle participe à la création d'un groupe d'action féministe qui vise à regrouper et défendre les droits des travailleuses à domicile. Bon, comme en 2021, on ne dit plus institutrice, mais professeur des écoles, je dis 1871.
C'est donc Dimitriev, j'imagine.
Voilà, exactement. J'ai oublié d'ouvrir un paquet, attendez.
Comme quoi le vocabulaire...
22.
22 ici.
Ibrahim, 28 ans, tailleur de pierre, mandat trésorier, trait de caractère. Les traits du visage d'Ibrahim traduisent ses combats et son engagement pour le syndicat. Sa maîtrise de plusieurs langues et sa persévérance en font un militant précieux et indispensable pour mobiliser les travailleurs immigrés et rappeler à chacun droits et devoirs. Comme ça, je dirais 2021.
Ouais, Ibrahim est un prénom malien aussi.
Mais sachant qu'il y avait des travailleurs immigrés dès les années 1850 en France, plutôt belges et flamands, comme voilà. Le disait Jean-Louis hier, mais reste que l'immigration n'est pas une chose bien nouvelle.
Oui, il existe maintenant des Belges qui s'appellent Ibrahim. Hein,
mais... En plus.
8.
Alors, Eric, 60 ans, architecte, formation syndicale. Trait de caractère, Eric maîtrise l'art du dessin et la dialectique, un héritage de ses lectures et de ses expériences nombreuses. Véritable stratège et militant persévérant, il sort plusieurs idées à la minute. Cela en fait un camarade respecté et charismatique. Il est en charge de la formation des adhérents et adhérentes et du développement syndical. Eric, architecte, moi j'irai quand même 2021. Mais...
Alors je précise que les camarades qui sont décrits dans ces portraits n'ont pas réalisé leur propre portrait. Hein. Donc c'était en effet un camarade de 2021. 12.
Alors Yannick, 30 ans. Ascensoriste, militant. Trait de caractère, Yannick met ses nombreuses connaissances en droit au service de ses idéaux internationalistes. Son expertise précieuse et sa disponibilité permettent de sortir nombre de ses camarades de leurs déboires et combats judiciaires. Alors, est-ce qu'il y avait déjà des ascenseurs en 1871 ? Je ne le sais pas, donc je vais peut-être me tromper. Allez, je prends le pari de me tromper. Je vais dire 1871 en tablant qu'il y avait peut-être déjà des ascenseurs à cette époque-là.
Alors, il y en avait, certes, mais enfin pas vraiment beaucoup. Ce camarade assessoriste est donc un camarade du syndicat du bâtiment de 2021. 30.
Il s'agit donc de Pierre, 31 ans, ingénieur, coopérateur. Trait de caractère, Pierre possède l'écoute et la discrétion des sages. Son métier lui a appris à prendre en compte tous les facteurs avant d'émettre un jugement ou de prendre une décision. Sa parole parcimonieuse et équilibrée lui donne crédit pour échanger avec d'autres assemblées militantes. Aucune idée. Mais je dirais 2021 au hasard.
Voilà, bien qu'il existait des ingénieurs en 1871, Pierre est un camarade actuel du syndicat du bâtiment. 11.
Charles, 21 ans, ouvrier paveur, mandat militant. Grande gueule joyeuse, Charles est un militant toujours volontaire pour mettre son énergie à disposition des initiatives portées par ses camarades. Même si sa préférence et son enthousiasme se trouveront toujours plus présents pour le coup de poing et l'action directe que pour les règles administratives. Je vais dire 2021.
Donc, alors, Charles Aubry est un militant de 1871, donc fusillé en 1872 comme ayant participé à l'exécution des otages de la rue Axo. Je pense qu'il faut qu'on fasse circuler, parce que j'ai plus de... il y a encore des cartes.
Oui, il y a encore des cartes, oui.
Donc, on fait circuler les cartes.
Georges, 30 ans, ouvrier, alors il y avait écrit fondateur et ça a été corrigé en fondeur, mandat coopérateur, convaincu que la coopération n'est qu'un des moyens pouvant aider à la ruine du système capitaliste. Georges s'implique avec d'autres au lancement de coopératives alimentaires à Paris, tout en militant contre la guerre. Il écrit par ailleurs dans le journal « Révolution politique et sociale ». Alors, en militant contre la guerre, je dirais 1871, même, je ne sais pas si on disait système capitaliste d'une façon courante à l'époque.
On a un public trop difficile, en fait, qui joue sur chaque terme. Donc, on a perdu cette fiche. C'est un militant de 1871. J'arrive pas à remettre la main sur la fiche, donc...
Voilà, donc, une carte suivante, peut-être.
Oui.
Alphonse, 32 ans, ouvrier relieur, syndicaliste. Alphonse s'investit dans tous les aspects de sa vie. Son militantisme ne s'arrête pas à un acte politique. Militant syndicaliste pour la défense de ses droits, cela ne lui suffit. Il participe à la création d'une coopérative de consommation reliée à son syndicat, puis de là à un restaurant coopératif. Il ne lui manque plus qu'à être paysan sur ses week-ends pour faire un tour complet, mais ces week-ends, il les préfère à pousser la chansonnette entouré de ses amis au sein des coopératives.
Alors,
je dirais 1871. Et c'est qui ?
Qui c'est donc ? Oui. Donc c'est qui ce militant ?
Alphonse Delacour.
Donc, dont on ne détient non plus ni aucune représentation graphique, ni photo, ni peinture. Voilà. Est-ce que... Oui.
Eugène, 31 ans, relieur, coopérateur, trait de caractère, militant courageux, formé par le syndicat, il s'investit dans la création d'une coopérative alimentaire et d'un restaurant coopératif. Il participe à de nombreux piquets de grève à Paris, dans lesquels sa montre offerte par ses camarades ne le quitte jamais.
Oui.
Varlin,
c'est Varlin. Sachant que vous connaissez l'histoire de la montre, Varlin est arrêté sur un banc et un sous-officier l'attrape et trouve cette fameuse montre qui est dédicacée à Varlin. Et c'est comme ça qu'on le reconnaît et qu'il sera fusillé. Donc méfiez-vous de vos montres.
Stéphane.
La vole, exactement.
Pardon. Stéphane, 33 ans, ouvrier polyvalent, mandat coopérateur. Stéphane est le meilleur vendeur de la coopérative qui soit. Sa gouaille, acquise au fil des différents chantiers qu'il a arpentés, en fait un militant loquace et connu de tous. Ah, 2021,
en effet, oui. Donc c'est un camarade qui avait participé à la coopérative de production du bâtiment que le syndicat avait monté il y a quelques années.
Oui, et pour le dernier, c'est trop facile parce qu'il n'y a plus qu'une case. Alors, mais vas-y quand même, Raphaël.
Léo, 30 ans, ouvrier bijoutier, donc militant. Ouvrier et militant internationaliste, Léo suit le chemin des diverses luttes qui secouent l'Europe. Romantique, son engagement sans faille le conduit parfois en prison. Il écrit dans des revues socialistes et est délégué à la commission du travail. C'est donc Frankel en 71.
Voilà, Léo Frankel, le Hongrois.
Voilà. Donc on vous remercie d'avoir participé à ce petit jeu qui était peut-être un peu long, mais c'est, je le répète, à cause des gradins. Donc voilà, on a voulu faire ce panorama pour... pour nous permettre de nous resituer aussi dans cette histoire qui continue après 150 ans de la commune. Et donc, pour se dire, en tant que nous, militants du syndicat du bâtiment, quel regard on porte sur ces militants. Il est clair que quand on voit certains portraits, que ce soit celui d'Eugène Varlin, de Léo Frankel ou de Nathalie Lemel, etc., je veux dire, on a retenu en fin de compte, peu de choses de ces parcours et de ce qui faisait la richesse aussi du mouvement auquel ils participaient et auquel nous, à notre niveau, vous ou vôtre, on essaye aussi de continuer à participer. Voilà. Donc ça nous semblait être un élément important pour juger à leur juste valeur les actes qu'ils ont produits et avoir une critique constructive sur l'œuvre de la commune qui a été faite par des gens qu'on considère comme nous et qui ont fait avec les moyens qu'ils avaient à un moment précis. Donc c'était une façon, je ne sais pas combien de temps il nous reste sur ce débat. On peut bien sûr évidemment revenir sur les réalisations de la commune. On a mis d'une part le décret de réquisition des ateliers et puis l'ensemble des décrets qu'a pris la commune. Sur la réquisition des ateliers, ce qui nous semblait important, ce qu'on a mis en valeur dans le texte, c'est d'essayer de trouver la complexité. C'est-à-dire que si on voit la question de la réquisition des ateliers, enfin, on retrouve trois forces au sein de la commune. On retrouve les coopérateurs qui soit travaillent déjà dans des coopératives, soit le mouvement coopérateur qui souhaite aller vers des formes autogestionnaires. On retrouve l'union des femmes, puisque l'industrie qui fonctionne réellement pendant la commune, c'est l'industrie de guerre, donc l'armement, l'habillement, et donc l'habillement avec une force, une présence importante des femmes. Hein, c'est 170 000 salariés femmes du bâtiment, de la confection. À l'époque, alors confection de luxe, les chapeaux, etc., mais l'ensemble de la confection. Et puis les artisans, soutien aussi radicaux, socialistes ou républicains qui soutiennent la commune. Et ce qu'on voit dans le travail que fait la commission sur cette convocation des sociétés ouvrières sur la réquisition des ateliers abandonnés, hein, on ne parle pas de réquisitionner l'ensemble des ateliers, ces trois forces qui sont trois forces de soutien de la commune défendent pas obligatoirement les mêmes choses. Et pourtant, la commission est confrontée à ces trois forces qui sont importante. Donc, ce qui nous semblait important dans le travail qu'on a fait, c'est de montrer ces formes de contradiction. Bon. Sur aussi le fait que la commission, on retient les phrases de Léo Frankel, etc., qui dit c'est la classe ouvrière qui doit prédominer, etc. Mais alors que la commune vote sur ces propositions, elle vote aussi à la suite d'autres propositions qui disent oui, mais on doit respecter les contrats déjà passés. Bon, et les contrats déjà passés, en termes de munitions, c'est avec des entreprises parisiennes classiques qui regroupent des milliers de travailleurs à l'époque. Donc, l'impression qu'on a eue avec ce travail, c'était de se dire que la question de la révolution et de ces moments révolutionnaires auxquels les militants les plus formés ne s'étaient pas réellement préparés, puisque Varlin dit avant le déclenchement de la commune que, étant donné l'état de la Première Internationale, il faudra des années avant que la classe ouvrière soit en capacité de prendre une direction d'un mouvement comme ça. Donc les militants sont projetés dans cet événement révolutionnaire avec toutes les réserves et toutes les craintes qu'ils peuvent avoir. Et la question de la révolution à ce moment-là, comme ça se passera aussi en Russie ou comme ça se passera en Espagne, c'est de dire à partir de quel moment on défend le projet révolutionnaire qu'on a dans une situation révolutionnaire avec les contradictions qu'on est obligé d'affronter. Et cette approche-là nous semblait importante, parce que même hors des mouvements révolutionnaires, en tant que militants syndicaux, on se trouve confrontés aux mêmes choses, c'est-à-dire entre porter un projet révolutionnaire et puis avoir une activité syndicale tous les jours, c'est faire un certain nombre de compromis, jusqu'à quel moment ces compromis remettent en question le projet que l'on porte. Voilà. Et comme nous sommes tous des militants d'aujourd'hui, ce débat-là nous semblait d'importance. Voilà.
Sachant toutefois que les militants révolutionnaires du syndicalisme ont toujours considéré qu'ils devaient marcher sur ces deux pieds. Un pied qui est le pied révolutionnaire vers la transformation sociale, et l'autre pied qui est l'amélioration des conditions de travail et de rémunération des travailleurs. Parce qu'un syndicat qui n'est que révolutionnaire ne pense que pour demain et fait peut-être pas grand-chose pour aujourd'hui. Et malheureusement, ceux qui pensent pour aujourd'hui ne font rien pour demain. Et donc, il est sans doute important de marcher sur ces deux pieds dans le syndicalisme.
Oui, le problème des deux pieds, il a toujours été présent dans le syndicalisme. Il est valable dans toutes les situations. Il est valable aussi de dire est-ce qu'on fait la révolution ou est-ce qu'on fait la guerre en Espagne de 1936. Il est toujours là. Et la position de Varlin, elle est assez impressionnante, je trouve, au moment de la Commune, parce que il est pas dans la commission du travail. Je veux dire, il est dans la gestion quotidienne des choses. Bon, et c'est en cela qu'à mon avis, on ne sait pas ce que l'histoire lui aurait révélé, mais en tout cas, il est dans l'essence même du syndicalisme que l'on porte, c'est-à-dire de dire que le projet qu'on porte, il se vit dans la quotidienneté. Et c'est pour ça aussi que dans les portraits que l'on vous a soumis, il nous semblait important d'abord de donner un peu de relief, alors qui est parfois réécrit, hein, parce que Nathalie Lemel, on ne l'a pas connue. Hein. Mais de dire aussi, par contre, par rapport aux militants qu'on côtoie tous les jours, que ce qui fait aussi notre force, c'est l'humanité qui a en nous, et la façon dont on crée du collectif. Et aujourd'hui, la question est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'en 1871, où les gens étaient dans une proximité, etc. Aujourd'hui, c'est à personne d'entre vous que je dirais qu'on vit dans des situations d'individualisation forcenée, et que recréer du collectif, c'est aussi recréer de l'humain, et que recréer de l'humain, c'est trouver dans les structures militantes qui sont les nôtres le moyen de faire vivre ces relations entre les êtres et de créer un collectif à partir de ce qui fait de ce qui sont nos différences. Et ça nous semblait très important parce que le à 150 ans de distance, l'histoire aplanit tout un peu, et donc on, en tant que militant et dans les situations militantes qu'on vit, on se dit toujours comment on va agréger, comment on va faire en sorte que les gens adhèrent, entre guillemets, au projet dont on est porteur, etc. Et c'est une question qui nous occupe tous les jours. Et je pense qu'il ne faut pas se leurrer non plus, même quand on regarde l'histoire de la Commune, je veux dire, et l'état de l'international en France et à Paris juste avant la Commune, je veux dire, c'était aussi compliqué pour eux que pour nous. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas les mêmes... on s'affrontait pas, on n'était pas confrontés aux mêmes réalités, mais en tout cas fédérer des gens pour porter un projet et pour le réaliser, c'est une problématique qui nous est commune, voilà. Mais je pense que l'intérêt, c'est aussi d'avoir une participation de votre part sur ce qu'on raconte, parce qu'on n'est pas là pour faire un monologue.
Enfin, disons une différence de situation aussi. C'est pas mécanique non plus, ce parallèle entre 1871 et aujourd'hui, parce qu'il y a des réalités qui sont totalement différentes. Je veux dire, tu parlais de l'international en 1871, c'est-à-dire que embryonnaire, on en parlera cet après-midi, mais embryonnaire, réduite, la guerre, etc. Quelle est la question de l'internationalisme aujourd'hui? Tu vas comparer avec quoi aujourd'hui? Où est l'international aujourd'hui dans le mouvement ouvrier? Où est dans le mouvement libertaire, dans le mouvement syndical, une internationale qui vive, qui est une réalité? Donc il y a des choses qui sont, je veux dire, en décalage total. Il y a des choses, je pense que la situation en 71 était beaucoup plus avancée sans moyens de communication, sans Internet, sans déplacement facilité, etc., du point de vue international. Aujourd'hui, tout est à reconstruire. Il n'y a aucune comparaison possible. À reconstruire dans un contexte où monte à vitesse grand V, dans tous les pays, la question du nationalisme, qui prépare d'autres guerres, etc. Je crois que ça, il ne faut pas plaquer, faire des parallèles. D'ailleurs, en 71, ils ont fait aussi des parallèles avec 1793, et ils ont essayé de copier aussi. Il faut bien distinguer, il y a des convergences sans doute, il y a des réalités pragmatiques de militantisme, mais il y a aussi des différences fondamentales. Aujourd'hui, la bataille, c'est, par exemple, par rapport à la question nationale, comment reconstruire des réseaux significatifs au niveau international. Si la question qui est posée, je veux dire, par la pandémie, par le climat, etc., c'est bien qu'aujourd'hui, il faut une solution globale, internationale. Il n'y a pas de solution locale, régionale, nationale, etc. Donc, je veux dire, les comparaisons ont des limites. Sinon, on cherche à faire un copier-coller.
Et puis, au-delà de la comparaison que tu viens d'évoquer, Raphaël, je pense aussi qu'il y a une chose dans les avancées de l'époque. La conscience de classe était bien plus importante qu'elle n'est aujourd'hui. On savait qu'on appartenait ou pas au monde ouvrier et qu'en face, il y avait un monde bourgeois à détruire ou à transformer. Aujourd'hui, avec cette pseudo-classe moyenne qu'on nous a fabriquée à coup de propagande, il est bien plus difficile pour un certain nombre d'entre nous de se positionner, même si ce n'est pas vrai dans cette salle.
Alors, moi, je vais répondre. J'ai pas de réponse à la question que vous posez, mais je vais répondre en tant que sentiment de syndicaliste et de ce que je connais de mon militantisme. C'est que même si je vois pas d'international effectivement qui est relié, je me sens internationaliste et c'est travailler au quotidien dans ce qu'on met en place, dans la coopérative de consommation qui vient en aide aux immigrés, mais qui fait qu'on est relié aussi aux Espagnols qui on a fait un appel à soutien pendant le Covid parce qu'on manquait de fonds pour fournir tous les paniers repas. Et il y a un syndicat espagnol qui nous a envoyé des fonds pour nous soutenir. Et on s'est engagé à ne pas les rembourser, mais à renvoyer de l'argent vers une autre cause militante internationaliste. En ce moment, il y a le Chiapas qui est à Paris. Il y a plein d'actions qui se font. On est en contact avec les Allemands. On est en contact avec plein de régions de la France. Et nous, ce qu'on ressent et ce qu'on vit, c'est que c'est dans ce qu'on construit au quotidien, en vivant dans la contradiction qui a été évoquée, que on est pris dans des métiers avec des hiérarchies et qu'on milite pour nos droits et pour sensibiliser sur nos droits dans ces métiers. Et à la fois, on est porteur d'un projet révolutionnaire et on essaie de faire du collectif et on monte des structures de solidarité qui nous font vivre ensemble et qui construisent l'international. Et voilà.
Mais oui, moi je viendrais en complément, c'est-à-dire que sans nier les difficultés à l'international en ce moment, la vision qu'on peut avoir de l'internationalisme au moment de la Commune, il est aussi très occidental. C'est-à-dire que notre syndicat a sorti une brochure sur les phénomènes en Kanaky avec les prisonniers kabyles et avec les prisonniers de la Commune. Je veux dire, les prisonniers de la Commune n'étaient pas très, très internationalistes dans leur pratique. C'est-à-dire qu'à l'époque, je veux dire, l'international se limitait à l'Occident. Et les autres, c'était des peuples barbares. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, on est confronté, comme c'était dit tout à l'heure, nous, au syndicat, je veux dire, il y a plus d'un tiers des adhérents qui sont des syndicats, qui sont des camarades maliens. Et quand, il y a quelques années, on a posé la question à ses camarades de dire il faudrait que peut-être le syndicat communique sur la présence de l'armée française au Mali, bon. Les camarades nous ont dit oui, bah, il faudrait qu'on se réunisse entre Maliens. Bon. Et nous, on a dit on a un problème, là. Parce que, bien sûr, les Maliens peuvent se réunir, mais enfin, la France, elle intervient aussi, puisque c'est l'armée française. Donc, en tant que Français, on est quand même aussi intéressé par la question. Et puis, il y a un autre problème, c'est-à-dire, au syndicat, on est d'abord quoi ? On est d'abord syndicaliste ou on est d'abord malien ou français ou footballeur ? On a eu le même problème quand on a manqué l'équipe de foot du syndicat. On avait un camarade au syndicat qui avait rêvé d'être footballeur professionnel, qui n'avait pas réussi. Donc il s'occupait de l'équipe de foot du syndicat. Et on lui a dit, mais qu'est-ce qu'on fait quand on joue contre une autre équipe et qu'on voit qu'il y a un de nos joueurs qui fait une faute ? Bah, il dit, oh, bah, si l'arbitre ne l'a pas vu, on ne dit rien. Alors on dit, bah oui, mais les règles, c'est nous qui les faisons. C'est, voilà. Et on dit, et si le gardien de but, il décide de monter, d'aller marquer un but ? Alors là, le camarade, il a dit, ah, bah non, il y a les ailiers. Il y a les avant-centres, il y a le gardien de but, tout ça, c'est des choses différentes. Alors on a dit, ouais, c'est comme au boulot, quoi. Je veux dire, il y a le patron, puis il y a les ouvriers, puis on se mélange pas. Donc la question, elle se pose dans notre pratique. Moi, je suis d'accord avec la vision de dire l'internationalisme, mais on n'est pas en train de faire de l'internationalisme au niveau des organisations. Alors, bien sûr qu'il faudrait que ça existe, mais on est d'abord confronté à faire de l'internationalisme dans nos pratiques quotidiennes en tant que militants. Alors, c'est vrai que au syndicat du bâtiment, on a plus de chances d'avoir des travailleurs maliens qu'au syndicat d'éducation. Ça, c'est clair. Mais on est, nous, syndicat du bâtiment, la première porte d'entrée de l'immigration. Enfin, avec la restauration, l'hôtellerie, etc. Donc, moi, on ne fait pas de comparaison. Enfin, le travail qu'on a fait, ce n'est pas un travail de comparaison. C'est un travail de mise à niveau. C'est-à-dire de se dire quel regard on porte sur le passé. Parce que le passé, il nous aide à nous construire. Il n'est pas une référence. On a fait, je reprends un exemple, on a fait un film sur les grèves de travail en 1908. Bon, et en 1908, l'armée a tiré contre les manifestants et a tué des travailleurs du bâtiment. Bon, et on dit, bah voilà, on commémore, etc. Mais la guerre de 14, 6 ans après, elle a plus décimé le syndicat du bâtiment que la grève des mineurs des carriers de travail. Donc, la question de l'histoire et comment on appréhende l'histoire. Je veux dire que c'est un défi qui nous est donné aussi. Je veux dire, quand on voit qui nous sommes aujourd'hui, ça serait bien aussi qu'on transmette aux jeunes générations ce pourquoi, ce qui nous attache à la commune, ce qui nous attache à l'ensemble des révolutions tenues par le mouvement ouvrier. Et donc, ce regard-là qu'on peut avoir, à notre avis, il ne passe que par la position qu'on a. Enfin, il a plus de chances de passer par la position qu'on a aujourd'hui. Mais la question qui nous est posée quand je dis qu'un tiers du syndicat du bâtiment de notre syndicat est composé de Maliens, c'est comment on raconte l'histoire de la commune à nos camarades maliens. Est-ce qu'on leur raconte la commune sous la forme de nos ancêtres les Gaulois? Je veux dire, c'est le problème, c'est-à-dire à partir de quel moment on transmet la force de la commune à des camarades qui sont issus de cultures totalement différentes. Et cette imagerie-là, à notre avis, elle ne passe que par une appropriation de ce que nous sommes et de ce qu'ils étaient. C'est pour ça qu'on a fait cette présentation.
Je vous remercie pour cet exercice de jeu, parce que je trouve que c'est très intéressant et ça pose quand même des difficultés de perception, en fait, de la personne et la resituer dans son époque. Et s'il n'y avait pas eu, par exemple, des indices lexicaux ou des mots qui mettent un petit peu sur la piste par rapport à des métiers qui ne sont plus appelés de la sorte ou qui ont carrément disparu, il aurait été peut-être encore plus difficile de distinguer l'époque. Donc, sur uniquement la présentation, sans donner plus de détails, il aurait été beaucoup plus difficile. Donc, sans indice et sans référence historique dans le lexique, pour moi, déjà, je me suis trompé, hein, bien sûr, mais je trouve que cet exercice est très, très, très intéressant du point de vue de savoir situer la personne dans son époque et de sa pratique. Et là, disons que la frontière est difficile à établir, quoi. Voilà.
Ce qui a été aussi un peu notre point de départ dans le regard qu'on a porté sur la commune, c'est qu'on a emprise à essayer de monter des coopératives, nous, et en se plongeant dans les portraits, en se plongeant dans l'histoire, on a vu qu'eux aussi étaient aux prises au même sujet, en fait. Ils étaient aux prises aux mêmes difficultés avec le patronat, avec le fait de monter des coopératives, et qui se confrontent aussi à des ateliers d'artisans qui sont très implantés localement et qui sont soutenus par leurs ouvriers. Et qu'ils faisaient leur possible, et on a eu le sentiment que, comme nous, en fait, on fait notre possible, et on est avant tout des humains dans des collectifs qui avançons petit à petit par petits bouts. Eux, ils ont eu une opportunité du fait de l'histoire, mais on s'est senti dans le même relief qu'eux, et c'est ça qui nous a porté comme énergie.
Oui, là, pour continuer, je trouve que c'est bien aussi qu'on se trompe. Ça veut dire que la classe ouvrière, même si elle n'est plus structurée de la même façon parce qu'on nous l'a formatée autrement, ça n'empêche que c'est quelque chose qui a du sens encore pour nous, quoi. Enfin, pour nous qui sommes ici, parce que il y a bon nombre de gens qui vont se dire, voilà, je fais pas partie de la classe ouvrière, hein. Mais pour nous qui sommes ici et qui réfléchissons à un projet révolutionnaire, de toute façon, il y a que deux classes. Il y a la classe des possédants et de ceux qui décident, et puis il y a la classe des dominés qui veulent sortir de cette domination. Voilà. Après, on nous a fabriqué autre chose. Mais moi, je trouve que c'est bien qu'on se soit trompé, qu'on ait été obligé de réfléchir. Alors, bon, les indices, il y en avait qui étaient faciles, bien sûr. Les prénoms, encore que les prénoms aujourd'hui, ils reviennent, ils tournent. Hein, voilà. J'ai une petite fille qui s'appelle Joséphine, hein, qui a 2 ans. C'était pas un prénom il y a quelque temps qui était utilisé. Ils reviennent, les prénoms, hein. Donc même les indices peuvent nous faire basculer, hein. En tout cas, merci pour la forme de transmission que vous avez eue là, parce que je trouve, par rapport à ce qu'on a eu hier, un peu académique, on va dire, là on rentre dans une autre forme d'expression entre les films, entre les parties académiques et puis les parties jeux. Je trouve que ça rythme bien les deux journées sur la commune. Merci à vous.
Voilà, ce qu'on voit aussi, c'est que l'éducation populaire a toujours aussi des façons de nous faire apprendre des choses autrement que par la magistralité et l'expositif, et c'est tout à fait essentiel. Quant à ce que vous disiez préalablement, ce qui est intéressant aussi dans ce que nous ont montré les copains du Sub, c'est qu'il y a une vraie filiation, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire savante, mais il y a aussi l'histoire des gens, et que cette histoire des gens, elle va de 1789, voire avant, jusqu'à aujourd'hui et un peu plus loin, quoi. Donc on a un continuum à la fois dans la pensée et un continuum dans l'action, même si la pensée et si l'action prennent des formes différentes quand on est en 71, de 1800, en 1971, voire en 2071. Mais je ne sais pas qui sera là pour le voir.
Oui. Bon, ça va un peu dans le même sens. Je pense que c'est un peu normal qu'on puisse se tromper entre les militants d'attente de la commune et ceux d'aujourd'hui, parce qu'on fait être militant, c'est tout simplement être militant. Et on est confronté à des périodes historiques qui sont différentes. Et aujourd'hui, on est content de reconnaître en fait qui. Non pas le militant qui œuvre quotidiennement à défendre ses idées, et à lutter contre l'exploitation, mais à celles et ceux qui sont devenus des personnages historiques. Mais dans les militants d'aujourd'hui, si on est confronté à un événement comme celui de la commune, eh bien, on va forcément voir émerger les figures historiques qu'on devra reconnaître dans... voilà, je pense que l'important, c'est d'être militant, de continuer le travail qui est fait par les militants d'hier, d'être nous, les militants d'aujourd'hui, pour faire en sorte qu'il puisse encore avoir des militants de demain, pour peu qu'on n'ait pas fini le travail à faire.
Je vais pas revenir sur ce qui a été dit. Effectivement, s'il y a eu des confusions entre les militants des différentes périodes, c'est qu'il y a une raison. Même si c'est vrai que le prolétariat a beaucoup évolué et que les frontières entre les classes ont beaucoup évolué, notamment avec l'entreprise, à partir du moment où ça a été possible de mettre des parts dans une entreprise, et puis cette notion complètement illusionniste de la classe moyenne. Et en même temps, on voit que s'il y a cette confusion, c'est aussi parce que, en fait, le prolétariat, le salariat s'est vachement élargi depuis qu'il se perpétue, en fait, depuis que les gens essaient de tenir à bout de bras ce système complètement obsolète et toxique. Et hier, on avait une discussion sur, tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait un soulèvement. Et pour autant, c'est quelque chose qui nous échappe. On n'a pas prévu, moi en tout cas, j'aurais jamais imaginé qu'il y aurait un mouvement des Gilets jaunes il y a 2-3 ans. Et aujourd'hui, je ne peux pas non plus prévoir quand arrivera ce grand moment d'insurrection qu'on attend. Et en même temps, je ne désespère pas parce que plus ce prolétariat, ce salariat et ce capitalisme va essayer de grossir et de se perpétuer, et plus il sera amené à s'autodétruire parce qu'on sera de plus en plus d'exploités à avoir un intérêt à ce, à ce qu'on fasse tomber tout ce système, quoi.
Oui, et puis ce qu'il faut aussi se dire, c'est ce mois-là que la classe ouvrière ici a changé, elle est dans le tertiaire beaucoup, et on sait que le tertiaire est assez peu syndiqué historiquement, mais le prolétariat n'a jamais été aussi nombreux dans le monde aujourd'hui, que ce soit en Pakistan, que ce soit en Chine, voire aujourd'hui en Éthiopie ou ailleurs. Et il y a peut-être un prolétariat révolutionnaire radical qui va naître dans un autre continent et sous d'autres auspices, et tant mieux. Et pour une fois, l'Europe prendra le train en marche plutôt que d'essayer d'être la locomotive du monde.
Oui, enfin, je continue un peu dans les échanges. Effectivement, s'il arrive une nouvelle brèche de l'histoire, évidemment, on prévoit en gros jamais. Ce qui est important, hein, c'est quelle gymnastique révolutionnaire on a pu faire avant. Non pas faire des plans vraiment précis, mais et si on se situe donc au début du mouvement ouvrier, hein, 1871 justement, la gymnastique révolutionnaire commence avec les grèves, d'accord. Le problème, hein, pendant la Commune, c'est la production s'effondre, y compris dans le bâtiment d'ailleurs, qui était un secteur très important avant la Commune. En tout cas à Paris. Par contre, je pense qu'il y a un problème qui a été posé, qui à la limite peut se reposer dans une autre branche de l'histoire, c'est la subsistance, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait un siège, qui était une situation extrêmement difficile, particulièrement pour les plus pauvres. Et il y a un certain nombre d'initiatives, notamment on a parlé des coopératives, des choses comme ça, qui ont été importantes, des échanges avec les banlieues, par exemple, pour avoir de la subsistance. Ça, je pense que quand même, 70 jours, quoi. C'est pas 6 mois, c'est pas un an. Je pense que sur ce terrain-là, il y a des choses qui ont été faites et qui, de toute façon, se poseront. Parce que s'il y a une brèche de l'histoire, il faudra quand même que les gens mangent. Il y a un certain nombre de choses à assurer. Par contre, effectivement, la gymnastique révolutionnaire importante, qui, à mon avis, est la grève active. C'est là qu'on commence vraiment à remettre en cause un système capitaliste, en l'occurrence. Là, à l'époque, il y avait très peu de grandes entreprises. Bon, la situation du siège, etc., ne permettait pas vraiment de poser. Comme tu l'as dit, le problème a été posé. Il faudrait favoriser plutôt les gens qui reprennent les entreprises. Bon, ça a été posé, mais peut-être ça aurait été résolu si la Commune n'avait été plus. Mais la grève active, moi, je la vois... Personnellement, pour avoir suivi d'assez près le mouvement, je la vois au moment de celui d'Arnoche. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu l'intervention de l'armée. Là, ils ont pratiqué, ils ont pu, mais ils ont eu un an et demi. C'est ça. Alors effectivement, je parle pas des difficultés actuelles pour la grève active. Parce que, à la fois, ce que ça veut dire, vu l'état, déjà pour la grève, c'est difficile, la grève active, et en plus, avec les métiers qui disparaissent, les éléments qui sont faits un peu partout dans le monde, enfin bon, on a vraiment aussi besoin d'internationalisme, et ça a été dit. Moi, je pense que c'est la gymnastique révolutionnaire, on a beaucoup de mal à la faire, mais c'est important, à l'époque, ils en parlaient. Enfin, j'ai repris un terme de l'époque, je ne l'ai pas inventé.
Sur les fiches de 1871, on a mis les dates qu'on avait, hein, de naissance et de mort. Il y a énormément de ces militants de 1871 qui sont nés en 1839, c'est-à-dire qui avaient près de 10 ans en 1848. Sur la question de, enfin, j'en fais le lien avec ce qui était dit sur les gilets jaunes, etc., et sur cette gymnastique révolutionnaire, les personnes qui étaient dans la commission du travail et de l'industrie, c'est des gens qui étaient dans le monde coopératif, qui avaient cette gymnastique et cette formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste à un certain nombre de mouvements spontanés. Le problème, c'est que pour tenir, et c'est pour ça que je faisais le lien avec Eugène Varlin, qui était aux subsistances, c'est-à-dire qui était dans la Commune, pas celui qui prenait la parole à la tribune, celui qui gérait le quotidien. Et aujourd'hui, le travail militant que l'on fait ou la formation militante que l'on fait, elle est destinée à ça, c'est-à-dire à former des camarades qui sont en capables. Nous, on dit au syndicat, les victoires, elles se gagnent à l'intendance. C'est-à-dire que c'est bien de lancer un mouvement de grève, mais si le mouvement de grève doit tenir, je veux dire, il faut l'entretenir. Il faut que les mecs, ils bouffent tous les jours. Il faut qu'ils sachent où ils dorment. Quand on est sur des mouvements de sans-papiers, comme on a pu le connaître... Et comme on essaye de le faire tous les jours, c'est pas de distribuer des drapeaux qu'il faut, c'est faire en sorte que d'assurer que le mec il puisse continuer à payer son loyer, qu'il puisse continuer à payer ses charges, qu'il puisse continuer à envoyer de l'argent au pays s'il le faut, etc. Et donc cette capacité à faire, c'est cette capacité militante de formation. Et aujourd'hui, la formation, alors les gens acquièrent, enfin moi, quand on lit les comptes rendus, quand on entend des témoignages, etc., qui disent « Ah mais moi, c'est ma première manifestation de gilets jaunes, etc. » Alors bien sûr, c'est un révélateur. Le problème, c'est qu'en tant que militant syndicaliste, on pense qu'on construit des militants, que le syndicalisme, c'est une école de la lutte, et que sans cette école de la lutte, on n'est pas en capacité, si un mouvement se faisait, d'en assurer le maintien et toutes ces questions-là. Donc, je veux dire que c'est la question qui nous est posée dans une vie militante où un militant, ça a cinq ans de vie. Hein. Au bout de 5 ans, on perd les militants, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Enfin, ils font des enfants, ils font une carrière professionnelle, ils font je ne sais pas quoi. Mais le problème auquel on est confronté, c'est celui-là. Et le fait de se dire comment on fait aussi que chacun puisse trouver sa place dans une œuvre collective, qu'est le syndicalisme ou qu'est le fait de militer, etc. C'est un problème qui nous est posé. Et je pense que la relation qu'on peut faire avec 1871, c'est que 1871, même s'il a surpris les militants, il a pu s'appuyer sur une frange de militants qui était prêt à un certain nombre de choses et à gérer la vie quotidienne. Voilà. Aujourd'hui, on manque un peu beaucoup de militants. Et on manque aussi du moyen de garder les militants, etc. Je veux dire que... Bon.
Voilà. C'est la même chose qu'en Espagne. En Espagne, moi, je me rappelle que les vieux camarades que j'ai connus quand j'étais jeune homme me disaient « Le coup de feu, c'est une chose. La grève, c'en est une autre. Mais l'important, c'est demain du pain et du lait à Barcelone. » C'est-à-dire que si les populations ne sont pas nourries... ne s'organisent pas pour se nourrir, eh bien, au bout de 3 semaines ou d'un mois, ils ont tendance à retomber dans les ornières de ceux qui les ont nourris jusque-là, quoi, ou qu'on fait semblant de les nourrir. Et effectivement, c'est tout à fait essentiel que de penser à la durée de la grève et à la solidarité durant les grèves des autres, de manière à ce qu'elles puissent dire. On l'a vu avec les femmes africaines dans l'hôtellerie récemment. C'est vrai qu'elles avaient un courage absolument admirable, ces femmes. Mais reste que toute la communauté malienne, toute la communauté sénégalaise, une partie de la communauté autochtone, c'est-à-dire nous, les avons soutenues. Et c'est pour ça qu'elles ont gagné, quoi. Mais leur grande détermination d'abord, et puis une grande solidarité des collectifs autour.
C'est ça qui m'a intéressé, c'est le brouillage des frontières aussi. C'est bien qu'on soit dans cet exercice, petit jeu qu'on a fait tous ensemble. On s'est trompé, mais justement, ça avait la vertu de montrer les ponts qu'on peut faire, passé, présent, et les échafaudages pour le futur. Et voilà, moi, c'est cette vertu du jeu et d'arriver à brouiller les frontières, montrer que voilà. Dans les différents corps de métier, branches, etc., en fait, ils ont traversé des choses. Il y a de la solidarité qui s'est créée sous les formes diverses, dont la forme coopérative qui revient là dans nos échanges. Et c'est très important, puisqu'il y a des tas de questions de gens aussi qui se posent la question à des échelles locales ou à des échelles, cette fois, internationales, pour tout ce qui est la sécurité alimentaire, la solidarité alimentaire. Donc, ça, j'ai l'impression que ça cogite, ça s'est remis en fait à ce niveau-là depuis quelques mois, quelques années à cogiter un peu partout. Donc moi, je suis à ce niveau-là assez confiant sur nos capacités un peu à élaborer collectivement des formes de solidarité sur des domaines vitalement vitaux, quoi. On l'a vu, quoi, les domaines de l'alimentation, de la santé, c'est redevenu à... Et la crise en a donné un des exemples les plus aigus, devenus des enjeux vitaux aujourd'hui. Donc voilà, il y a aussi se donner des capacités de force et de à ce niveau-là pour continuer cette élaboration.
Voilà, donc je ne sais pas, il est 12h08, on a jusqu'à 12h15, et sans doute des interventions, à moins que les camarades du SUB veuillent faire une brillantissime conclusion.
Je reprends la parole. Moi, je me pose une question. En fait, moi, j'ai lu un petit peu divers articles, pas forcément toujours de la littérature ou des théoriciens, même actuels, sur le monde du travail et ainsi de suite. Et parfois, certains se trompent ou ont des versions plus ou moins tronquées et ou défendent leur propre thèse. Et je me demande, moi, pourquoi il n'y a plus cette espèce de culture du syndicat. C'est-à-dire, on a vu au fur et à mesure des décennies le nombre de personnes inscrites dans des syndicats, peu importe lesquels, descendre de plus en plus. Alors, est-ce que c'est le monde qui est différent et où les mentalités sont différentes? Je me pose en fait les questions. Est-ce que c'est le management, comme on appelle ça maintenant, hein, parce qu'ils ont des vocables très, très bien technicisés. Et donc, moi, je me pose la question, tout simplement, pourquoi plus personne arrive à prendre cette décision de prendre une carte syndicale et à lutter au point de vue collectif, quoi, en fait. Et donc, il y a aussi quelque chose qui a disparu, comme disait Hélène auparavant, c'est qu'en effet, il n'y a que deux classes. Hein. Et donc, ce vocable et ce mot d'ordre, la lutte des classes, disparaît, enfin, pas globalement, hein, bien sûr, mais disparaît un petit peu du discours politique, ainsi de suite, comme si c'était quelque chose de poussiéreux, de suranné, de désuet, et ainsi de suite, alors qu'elle existe encore. Voilà, je vous remercie.
C'est difficile d'avoir une réponse. Moi, ce que je dirais, c'est que le syndicalisme, il se développe quand il gagne. Pas quand il perd, c'est clair. Je veux dire, sans faire de généralité sur l'état du syndicalisme en France, nous, on le voit, on le voit dans notre pratique. Je veux dire que, voilà. Après, je pense que le syndicalisme, il a dans son histoire, je veux dire, il a eu des hauts, des bas, etc. Je reprendrai une simple image. Je veux dire que on était à la manifestation du 5 octobre dernier. Manifestation fourre-tout, là, où il y avait tout et rien. Bon. Et qu'est-ce qu'il y avait tout le long de la route? Il y avait les boutiques politiques. C'est-à-dire que le cortège, il passait entre une haie de forces politiques plus ou moins importantes de gauche qui venaient faire leur marché. Ils venaient chercher leurs électeurs. Et qu'est-ce que faisaient les syndicats? Ils les amenaient sur le chemin de la représentation parlementaire. Donc, je veux dire que c'est évident qu'aujourd'hui, et alors le syndicalisme voit ses limites, parce que de toute façon, il amène pas l'ensemble de la population qui ne vote plus. Il amène les militants syndicaux qui sont encore, et qui peuvent, vers lequel on va pour les amener à voter pour une des chapelles politiques qui était sur le bord de la route. Donc le syndicalisme et nous, à notre place, bien évidemment, on est responsable de ça. Je veux dire, maintenant, demain, on gagne. Comme en 36, comme en 45, comme etc., le syndicalisme, il se portera bien. Bon. Mais à perdre et à accumuler les défaites, je veux dire, on ne peut avoir que ce résultat.
Et j'ajouterais que ce qu'on observe au bâtiment, c'est qu'on pense aussi, une des pistes, c'est qu'on a perdu la guerre de l'éducation. C'est-à-dire que moi aussi, je passais par une école d'artisanat, et ce qu'on m'enseigne, c'est être en concurrence avec les autres. Et l'idéal, c'est que soit je sois mon petit patron avec mes salariés, les ouvriers que j'exploite, soit je vais être à l'établi, à la chaîne, à produire, pour un patron. Et j'en parle parce que je trouve que ça a une pertinence du fait de l'endroit où on se trouve, c'est que le syndicalisme, en fait, s'est retiré de la guerre de l'éducation et de qu'est-ce qui est transmis, de quelle solidarité est transmise, et de comment fonctionner ensemble, comment travailler ensemble, comment être solidaire. Et donc, ce à quoi on est premièrement confronté dans notre syndicalisme du bâtiment, c'est à cette éducation de chacun pour soi, dans le bâtiment, d'individualisme, de lutte les uns contre les autres, de concurrence et une absence de solidarité.
Voilà, donc il y a 2-3 prises de parole brèves. Et ensuite, je vous inviterai à aller vous restaurer.
Bon, ce sera très bref. Hein. C'est par rapport justement où je reviens un petit peu aux manifestations. Moi, je m'aperçois que bon, il y a beaucoup de compagnons, de militants qui se désengagent d'une certaine manière dans les manifestations. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, maintenant, le type de manifestation est très différente. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui nassé par un cortège de policiers de chaque côté, devant, derrière. Et ça, bon, justement, la preuve en est lors de la manifestation du 5 octobre, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire qu'on est maintenant, on n'est plus en capacité aujourd'hui, en cortège de tête, de diriger la manifestation. Ce sont des estafettes de la police qui nous dirigent, là, qui sont devant et qui changent finalement le parcours de la manifestation quand elle veut, quoi. Donc voilà, ça aussi, ça, c'est à prendre en compte. J'en ai parlé aussi avec pas mal de compagnons qui ne veulent plus aller dans les manifestations, en tout cas sous cette forme-là, quoi.
Juste pour reprendre la question, effectivement, des forces réactionnaires qui sont des forces qui viennent casser le collectif. Tu parlais de management, là, tu parles comment ils cassent les manifestations, comment ça devient compliqué de se soutenir de collectif. Le management néolibéral, là, qu'est-ce qui se passe dans nos entreprises et au niveau du travail, ce sont l'imaginaire de la qualité totale, ce sont des évaluations individualisées qui viennent mettre en concurrence les différents travailleurs. C'est bien tout ce qui vient casser le lien social et mettre les uns et les autres en concurrence. Donc il faut avoir en tête cette force du néolibéralisme qui imprègne les ateliers, le travail, là où on est. Et cette casse du collectif, moi je l'aperçois vraiment dans une force réactionnaire. Et il faut qu'on arrive à penser ça et à le travailler. Comment est-ce que, tu le disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on refait du collectif ? Nous sommes au lycée autogéré de Paris. C'est bien l'autogestion qui va soutenir du collectif. Et l'autogestion, il faut entendre ce que ça veut dire. Il y a le mot gestion dedans. Et c'est pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, le syndicat, c'est aussi un travail de gestion du quotidien. La gestion, elle doit être partagée. Ce sont des fonctions qui doivent tourner. Et c'est comme ça, peut-être, qu'on arrivera de nouveau à soutenir quelque chose du collectif et à refaire du lien, quoi, entre nous.
Oui. Oui.
Intervention, peut-être.
Oui. Moi, je veux dire, bon, c'est vrai que c'est un constat que plus personne ne veut se syndiquer. Mais on a des adversaires quand même intelligents face à nous. Le capitalisme a su faire ce qu'il fallait faire pour nous casser. C'est-à-dire que bon, le fait, par exemple, de transformer les syndicats en organismes de co-gestion, tu vois, eh bien voilà, on n'a plus de côté révolutionnaire des syndicats. Ils ont abandonné un tas de conseils comme l'action directe, etc. Si bien qu'effectivement, les gens ne se sentent plus représentés. Bon, le système électoral, pareil, la représentation, la démocratie représentative, il y a 2 Français sur 3 qui vont plus voter, etc. Non, mais moi, je pense qu'il ne faut pas désespérer de ce truc-là. Certes, l'attaque, elle est frontale, ils vont jusqu'à changer nos mots. Par exemple, hein, je ne sais pas, moi, chef du personnel, patron, ouvrier, mais non, maintenant, nous avons affaire à des directions, des ressources humaines, hein, des collaborateurs, etc. C'est-à-dire qu'on change les mots parce qu'on pense avec les mots, et du coup, eh bien, on pense dans un sens qui est prédéterminé. Donc il faut faire attention à cette lutte frontale et ne pas désespérer. Moi, je pense de toute façon qu'il y a une réaction à un moment. C'est-à-dire que je vois émerger des sections syndicales dans mon coin, par exemple, qui renouent avec les formes anarcho-syndicalistes. Dans l'Aisne, les santé sociaux CGT viennent de changer leur drapeau et de reprendre un drapeau noir et rouge. L'émergence des combats, ça s'est fait sur des ronds-points. Qu'est-ce qui irait imaginer qu'on irait se battre sur des ronds-points, c'est-à-dire hors des lieux urbains, hors de tout. Et ça a marché, cette lutte. Elle est quand même significative. Bon, etc. De plus en plus, au niveau de la gestion, il y a des gens qui s'investissent dans des coopératives alimentaires autogérées ou des luttes comme ça. Donc je pense qu'il faut, il faut, il faut garder l'outil, parce qu'à un moment, il y aura besoin de forces organisées aussi pour aider à faire en sorte que tous ces mouvements un peu épars se coordonnent. Parce que ce qui manque à ce mouvement-là, c'est le fédéralisme, et ça, nous, on peut l'apporter. Voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on garde nos outils prêts.
Je voulais juste rappeler les paroles d'un grand patron américain multimillionnaire il y a 2-3 ans à peu près, qui a dit cette phrase qui a été reprise bien sûr par tout le patronat, particulièrement français. Il a dit oui, la lutte de classe existe et c'est ma classe qui est en train de la gagner.
Un dernier mot du sub.
On a parlé tout à l'heure de conclusion. Il est bien évident qu'on ne peut pas conclure, hein, puisqu'on est en marche. Donc voilà, en tout cas, on continue. On est content que vous ayez d'avoir pu vous exposer notre façon de voir les choses et d'avoir participé aux actes de ce colloque. Et puis, au prochain, alors.
Absolument. Voilà, on va rendre l'antenne, sachant qu'on se retrouve, nous, à 14h, autour de les internationalistes anti-autoritaires de la Commune de Paris, avec Yves et Bernard de la CNT. Et de 14h45 à 15h30, la première internationale et la Commune. Et là aussi, on essaiera de mettre une forme moins expositive que celle qu'on a pu voir hier. Voilà. La restauration ce midi est légère, c'est sandwich salade, je crois. Car les jeunes gens du lycée autogéré nous ont déjà largement nourris hier et donc ils font du léger aujourd'hui. Et d'ailleurs, on en était d'accord avec eux. À tout de suite.
En voilà un petit monde où il fait bon vivre. Méga dividendes, bénéfices, super profits. Le nantis s'engraisse quand la bourse l'enivre. Les usines dégraissent. Et le pauvre survit. La guerre des classes a bien lieu. Ils sont en passe de la gagner. J'aimerais avant que d'être vieux, gronder en masse, révolter. Et pendant que les politiques s'ingénient à goinfrer leurs potes, ils privatisent la sécu et ferment les postes. Il fallait réhabiliter la valeur du travail. Travailler plus, vivre moins et gagner pot de balle. Eux s'augmentent bien en récompense de leurs efforts. Ils créent crise sur crise et ça ne leur porte pas tort. Toi, ton petit découvert, tu le payes et cher. À ta banque véreuse, sauvée par tes impôts. L'argent va à l'argent, vive les milieux d'affaires. Nous sommes toujours manants. Et y'a plus de poule au pot. La guerre des classes a bien lieu. Ils font tout pour la gagner. On va bosser de plus en plus vieux. Peut-être même jusqu'à crever. Et pendant que les politiques se démènent pour les rentiers, on enterre nos services publics. On galvaude l'égalité. Chez Total, marée noire en Bretagne, crise du logement et chalet en montagne. La guerre des classes a bien lieu, ils font croire